Le point sur l'actualité, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le droit à l'IVG inscrit dans la Constitution française, ce sera effectif ce soir. La France est pionnière en la matière. Dans ce journal, nous irons au Texas qui a connu puis perdu le droit à l'avortement pour ses habitantes. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré aux cartels, ces étiquettes qui accompagnent les œuvres dans les musées. Il se réunit à 15h30 au château de Versailles, le Parlement rassemblé en congrès pour faire de la France le premier pays du monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse et protéger le droit à l'avortement en recul dans nombre de pays. Alors que dans le même temps, aux États-Unis, sous l'impulsion de la présidence de Trump, la Cour suprême américaine a statué que la constitution ne garantissait plus le droit à l'avortement, suite à quoi 14 États ont totalement interdit le recours à l'IVG. Parmi eux, le Texas, dans le deuxième État américain le plus peuplé, environ 25 centres qui pratiquaient des avortements ont totalement fermé leurs portes. Il ne reste plus que 3 cliniques qui continuent à aider des femmes à avorter ailleurs et assurer des soins pré- et post-IVG. Envoyés spéciaux au Texas, Sarah Mansoura et Alexandre Abergel ont pu se rendre dans l'une de ces cliniques à Houston, leur reportage.
Dans une ambiance feutrée, les patientes sont reçues dans un écrin de douceur. Environ 200 se succèdent chaque mois. Une goutte d'eau, alors qu'à Houston, on dénombrait jusqu'à 3000 IVG mensuels. Glenda enchaîne les échographies.
Elles arrivent pétrifiées, elles ne savent pas où aller, elles ont l'impression qu'en vivant au Texas, c'est illégal pour elles d'aller avorter ailleurs. On a beaucoup de patientes en pleurs, c'est difficile.
Difficile car leur santé, voire leur vie, est menacée. Les médecins hospitaliers craignent désormais d'aider les femmes développant des complications pendant leur grossesse. Cathy Kleinfeld, administratrice de la clinique.
Ce sont d'horribles conséquences. 4 femmes avec des grossesses extra-utérines ont été refusées à l'hôpital. On leur a demandé d'attendre et de revenir.
Situation révoltante, dit-elle, qui l'engage d'autant plus à continuer ses soins pré- et post-opératoires. Mais le combat, assure Cathy Kleinfeld, est aussi à mener dans les urnes.
On le dit tout le temps à nos patients qui nous demandent mais comment en est-on arrivé là ? J'ai avorté il y a 5 ans, etc. On leur dit c'est parce que Trump a été président et qu'il a nommé des juges ultra-conservateurs. Conservateur à la Cour suprême.
Un message qui s'affiche jusqu'au mur de ce centre de soins. Votez, est-il écrit, vos droits en dépendent.
En Chine, la session annuelle du Parlement chinois, rendez-vous clé du calendrier politique national, vient de commencer. Elle dure jusqu'au 11 mars. On apprenait ce matin que, contrairement aux années précédentes, le Premier ministre chinois ne tiendra pas sa traditionnelle conférence de presse en clôture, pourtant incontournable depuis 1993. Elle n'aura plus lieu toutes ces prochaines années, a indiqué le porte-parole de cette session parlementaire sans en expliquer la raison. Retour en France où le procès du déraillement de la rame d'un TGV et qui a tué 11 personnes en Alsace le 14 novembre 2015, juste après les attentats du Bataclan. Ce procès donc s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. La SNCF et ses filiales Sistra, qui commanditaient les essais, et SNCF Réseau, qui est le gestionnaire des voies, ainsi que 3 personnes physiques, sont poursuivies pour homicide et blessures involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité.
Suite du 8.45 d'Anne-Laure Chouin avec un dossier qui s'intéresse à ce qu'on appelle la médiation graphique.
Oui, ou pour le dire plus visuellement, ces petites étiquettes qu'on trouve dans les musées à côté des œuvres et qui donnent quelques explications pour comprendre ce que l'on regarde. Des cartels qui, mine de rien, posent une question d'ampleur. Faut-il comprendre l'œuvre ou la ressentir? Question qui fait débat à intervalles réguliers et notamment en ce moment à l'occasion d'une exposition à la Fondation Cartier à Paris. Bijoy Jain, un architecte et artiste de Mumbai, propose notamment des tentures qui marient l'indigo et la bouse de vache ou des sculptures enduites de goudron. Sauf que pour le savoir, il faut croiser un médiateur car l'artiste indien a refusé les cartels aussi bien que les grands panneaux dans les salles. C'est un dossier signé Chloé Le Prince.
Supprimer le texte au profit de la contemplation et de ce flottement voulu, recherché, c'était une volonté expresse de Bijoy Jain. Tellement expresse que la première fois que j'ai visité l'exposition, un membre de l'équipe de salle m'a carrément repris des mains le petit livret attrapé près du comptoir. Interdit de lire avant la sortie, tant pis pour le détail des matériaux, la date, la fabrication des œuvres. Dans le jargon des musées, on appelle ça un pavé technique. Supprimer le texte pour privilégier l'expérience de l'œuvre, ça fait 40 ans que les commissaires d'exposition en débattent. Dans les années 70 déjà, quand beaucoup d'artistes post-minimaliste américain étaient aussi des théoriciens. Un critique qui s'appelait Rosenberg dénonçait les expositions centaures, mi-mot, mi-matière, comme il disait. Depuis, des expositions beaucoup plus muettes, sans cartel, ont vu le jour, dans des centres d'art par exemple, mais aussi au centre Pompidou. En 2019, Christian Boltanski, encore vivant, avait refusé les cartels. Il tenait à ce que sa rétrospective se passe d'explications. Il comparait la visite d'une exposition à 10 minutes dans une église.
Une exposition telle que je l'imagine pour moi, c'est un moment qui est un moment pas forcément compréhensible directement, où chacun peut prendre ce qu'il a envie de prendre, mais en principe, le visiteur sait qu'il se passe vaguement quelque chose et se pose vaguement des questions pour lui-même et est peut-être ému.
Mais à Aubusson, au contraire, la Cité internationale de la tapisserie vient de refaire entièrement son parcours avec des cartels. D'abord pour faire des économies, moins de 2000 euros l'ensemble des cartels en carton plume. C'est beaucoup moins que le petit livret imprimé qui accompagnait le visiteur. La conservatrice met aussi en avant un critère écologique. Moins de papier pour le musée qui reçoit 40 000 visiteurs par an dans la Creuse. Mais Alice Bernadac revendique aussi ce retour à la vertu pédagogique du texte dans les salles de musée. Et pas seulement sur une poignée de tablettes vite obsolètes.
Je ne pense pas que le cartel ait le pouvoir d'amoindrir le choc esthétique ou l'expérience de contemplation qu'on peut avoir face à une grande œuvre d'art. Je pense qu'en revanche, le texte, il peut, avec d'autres dispositifs, avoir le pouvoir de rendre cette rencontre possible pour toute la diversité des publics qu'on a à accueillir au musée.
À Aubusson, c'est finalement le Covid qui a accéléré le retour des cartels. Quand les tablettes et tout ce qui se touchait a été confisqué, le musée s'était retrouvé un peu tout nu, sans support d'explication. Et puis dans la foulée, c'est le prix du papier qui était monté en flèche.
Chloé Leprince. Le temps de ce jour, crainte d'avalanche dans les Alpes. Le temps est perturbé sur l'Est et la façade atlantique. Ailleurs, plutôt du soleil, compté au plus chaud de 8 à 15 degrés. 8h50.